Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Qui était Sophocle ? Un homme de théâtre, mais aussi un homme politique de premier plan, stratège, aux côtés de Périclès, un esprit audacieux qui faisait les délices des invités pendant les banquets. Ce poète citoyen qui a écrit 120 ou 130 pièces, dont seules 7 de ses œuvres sont parvenues jusqu'à nous, est un monstre sacré du théâtre antique. Sa vie semble avoir été le contraire d'une tragédie, jouant de la vie des héros de la mythologie dans ses pièces. La cité d'Athènes lui a rendu un hommage exceptionnel après sa mort. Il fut en effet héroïsé. Tout au long de sa vie, il a accompagné la grandeur athénienne et fut très apprécié, très aimé de ses contemporains. Pour faire le portrait de cet honnête homme d'Athènes, j'accueille aujourd'hui Jacques Joanna, helléniste, membre de l'Institut, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont vous avez été président, monsieur Joanna. La littérature et la civilisation grecque ont peu de secrets pour lui. La médecine grecque et la tragédie sont parmi tous ses objets d'étude deux de ses sujets préférés. Jacques Joanna a écrit une biographie de Sophocle, publiée chez Fayard en octobre 2007. Jacques Joanna, bonjour.
Bonjour.
Hippocrate vous a pris quelques années de votre vie de chercheur ces derniers temps. C'est à la vie de Sophocle que vous vous êtes attaqué. Le personnage est tellement haut en couleur, si surprenant. J'imagine que ce fut pour vous un véritable bonheur d'écrire cette biographie.
Eh bien, je crois que dans votre présentation, vous avez tout dit.
Non.
Il n'y a plus rien à dire maintenant. Vous avez parfaitement résumé les choses. Et je voudrais tout d'abord vous expliquer comment j'en suis arrivé à écrire cette biographie sur Sophocle. Alors, je pourrais partir, si vous voulez, de ce que Cocteau a répondu à une question qui lui était posée lorsqu'il avait adapté l'Antigone de Sophocle et lorsqu'il l'avait représenté au théâtre de l'Atelier en 1922. Je pense que vous vous souvenez de cet événement mémorable. Il y avait les décors de Picasso, la musique d'Arthur Honegger et les costumes de Chanel. Et il présentait l'Antigone de Sophocle, mais qu'il avait peigné, comme il disait, pour la rendre moderne. Et on lui avait posé une question, pourquoi vous occupez-vous de Sophocle ? Et la réponse est, parce qu'il existe des choses neuves, très vieilles, et des choses vieilles, toutes neuves.
Voilà.
Alors je trouvais que c'est admirable, j'ai mis cela en exergue de l'ouvrage, comme vous l'avez vu. Hein? Bien entendu, ce n'est pas cette réponse de Cocteau qui m'a amené à m'intéresser à Sophocle, mais j'adhère pleinement à cette réponse. Je dois dire que j'ai découvert cette réponse alors que j'en arrivais à la fin de l'écriture de mon Sophocle, parce que vous avez vu à la fin,
il y a beaucoup d'annexes,
mais surtout, il y a le dernier chapitre conclusion qui s'appelle Deus ex machina, le temps et la nature, où j'ai essayé, dans ce dernier chapitre, d'établir un pont entre le Sophocle tel qu'on l'a connu au 5e siècle et puis la survie de Sophocle. J'en suis arrivé jusque au théâtre moderne qui reprend des pièces de Sophocle en les adaptant. Et j'ai découvert, parce que je pense que ça n'est pas très connu, cette réponse très belle de Cocteau. Je vais revenir à la question posée. Comment se fait-il que j'ai écrit un Sophocle ? Alors, c'est à double détente. La réponse est à double.
J'allais dire comme l'écriture de Sophocle, alors.
C'est à double détente parce que il n'y aurait pas de Sophocle sans Hippocrate.
Bien.
Et je voudrais rendre hommage ici à Jacqueline de Romilly, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, bien sûr, et aussi au directeur de la collection, Denis Maraval.
Oui.
Il y a plus de 20 ans, Denis Maraval avait demandé à Jacqueline de Romilly, est-ce que vous connaissez des collègues qui pourraient écrire des biographies sur l'Antiquité ? Et elle a donné mon nom, j'imagine parmi d'autres, je n'en sais rien. Et c'est ainsi que Denis Maraval m'a demandé d'écrire en Hippocrate, car je suis,
qui est aussi publié chez Fayard.
Qui est également publié chez Fayard. Et alors, quand cet Hippocrate est sorti en 1992, Denis Maraval était enchanté et il m'a demandé immédiatement de signer un contrat pour un autre ouvrage et c'est là que je lui ai proposé Sophocle.
Alors, quel était...
Cela fait il y a 15 ans.
Eh oui.
Et ça signifie que j'ai travaillé à ce Sophocle
pendant 15 ans. Qu'est-ce qui vous tenait particulièrement à cœur, justement, dans le choix de ce sujet ? Alors, puisque c'est vous qui avez proposé ce
bien
sujet
sûr,
à,
bien sûr.
Mais
il y avait, Maraval. Il y avait une unité d'abord avec Hippocrate. Parce que Hippocrate comme Sophocle appartiennent à la même période fascinante du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce siècle de Périclès, où l'on a vu naître à la fois médecine grecque et tragédie grecque. Une science et un art qui ont marqué la civilisation occidentale.
Et le lien entre les deux, ça serait quoi ?
Alors justement, il y a un parallélisme entre ces deux génies, même s'il n'est pas total. D'abord, ils sont presque contemporains.
Oui.
Hippocrate est plus jeune de 30 ans que Sophocle. Et puis, il y a un autre parallélisme qui n'est pas total, que l'on peut essayer d'établir, c'est que Hippocrate, vous le savez, passe pour être le père de la médecine.
Mmh.
Alors Sophocle ne passe pas pour être le père de la tragédie parce qu'avant lui, il y a Échille. Mais Sophocle représente le sommet parfaitement équilibré de l'art tragique comparé à son aîné Échille et à son cadet Euripide.
Euripide, voilà, on va parler de cette trilogie d'auteurs probablement au cours de l'interview.
Et puis alors, le lien entre les deux...
Entre la médecine et le théâtre,
est plus personnel.
Ah oui, entre Hippocrate et...
Entre la médecine et la tragédie grecque, entre Hippocrate et Sophocle, est plus personnel. Il représente les deux pôles de ma recherche et de mon enseignement à la Sorbonne pendant un quart de siècle. Ce sont deux aspects de la littérature grecque en apparence contradictoires. Prose technique pour Hippocrate, poésie tragique pour Sophocle. Mais en réalité, je ne veux pas entrer dans des détails trop précis sur le grec, on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Mais surtout, il me semble que ce sont médecine et tragédie sont complémentaires, car ce sont deux façons de dire la souffrance humaine et d'essayer de la surmonter.
Voilà. Alors, qu'avez-vous découvert en vous plongeant dans l'écriture de cette biographie ? Disons, est-ce que vous avez découvert une partie complètement nouvelle de Sophocle auquel vous n'aviez pas songé ou bien vous avez approfondi 15 ans de travail sur Sophocle ? Il en est sorti un nouveau Sophocle pour vous ?
Alors, les générations d'étudiants qui ont suivi cours et séminaires reconnaîtront dans le livre certaines pièces d'un puzzle, mais qui est présenté ici pour la première fois.
Voilà, on a la totalité.
Voilà. Et puis, je dois dire qu'en travaillant, j'ai découvert beaucoup sur Sophocle. Et c'est justement ce qui est nouveau par rapport aux monographies précédentes.
Qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans le destin de cet homme ?
Ah ben, le destin de cet homme, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous l'avez bien souligné, c'est qu'il a su maintenir un équilibre entre sa vie de citoyen et sa carrière d'homme de théâtre. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a parlé d'Échille, on a parlé d'Euripide, ils forment la trilogie qu'on a retenue des auteurs du 5e siècle, mais c'est le seul.
C'est le seul.
C'est le seul qui ait maintenu cet équilibre entre un rôle important dans sa cité et une carrière théâtrale tout à fait brillante.
Alors, il a eu une vie très longue.
Oui.
Ça, c'est assez surprenant aussi.
Oui.
Alors, peut-être que vous allez nous présenter un petit peu.
Surprenant.
On vivait si vieux à son époque, apparemment.
Oui. Vous savez, Hippocrate...
aussi, hein
aussi.
Oui.
Sophocle.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet...
Donc, on pourrait peut-être préciser qu'il a vécu 90 ans, en gros, de 495, on ne sait pas exactement, la date de sa mort est sûre, 406, 90 ans, c'est-à-dire qu'il couvre tout ce cinquième siècle.
Ah, c'est une chance pour nous, parce que non seulement il a écrit, il était témoin de beaucoup de choses, d'abord de l'histoire grecque, on va revenir sur tout ça.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est une grande chance que de couvrir ce siècle, ce cinquième siècle athénien. Il y a un événement un peu déterminant dans l'histoire de sa vie, quand il est jeune. Racontez-nous la première fois qu'il entre en scène, si on peut dire, lorsqu'il participe au chant et au chœur.
Oui, c'est
parce
ça.
Que ça montre bien... Pourquoi est-ce que Sophocle est justement important? Parce qu'il fait sa première entrée à un moment particulier, justement. Il a été formé à la musique et à la danse.
Oui.
Et le sujet qu'il va traiter, c'est la victoire navale de Salamine. Pourquoi c'est déterminant et représentatif aussi de ce que va devenir Sophocle?
Il faut rappeler un peu l'histoire. Oui. Et au fond, la première sortie officielle de Sophocle a lieu après la bataille de Salamine de 480. Il avait à peu près 16 ans à l'époque et les Athéniens célébraient la victoire de Salamine au moment où l'invasion perse avait été repoussée. Ils s'étaient rassemblés autour du trophée, c'est-à-dire le monument de la victoire.
Oui.
Où l'on avait entassé les armes des ennemis et qui étymologiquement correspondaient au moment où ils avaient tourné et où ils battaient en retraite. Mmh. Il y a l'idée de tourner dans le trophée. Et il eut l'honneur d'être choisi pour danser autour du trophée en s'accompagnant de sa lyre, donc alors que les Athéniens étaient rassemblés. Et je ne sais pas si vous savez que Victor Hugo a composé dans la Légende des siècles une chanson de Sophocle à Salamine, mais le poète a pris de grandes libertés par rapport aux sources.
Mais effectivement, il a dû magnifier cette jeune figure de Sophocle dans ce poème. C'est la chanson de Sophocle à Salamine. Mais il y a déjà là la vengeance, la guerre, les héros... tout ce qu'il va faire et tout ce qui va nourrir son œuvre théâtrale plus tard. Et puis, en même temps, une rencontre avec l'histoire, parce qu'effectivement, cette victoire navale de Salamine, elle est très bien tombée pour les Grecs. Donc, c'est un peu une sorte de guerre de libération. Et ça va peut-être accompagner, justement, Sophocle dans tout son rapport à l'histoire, au pouvoir, à la défense de sa cité.
On pourrait rappeler que Salamine, 480... Oui. Donc, à cette époque-là, comme je l'ai dit, Sophocle avait 16 ans, oui. Mais Eschyle avait 25 ans de plus.
Alors oui, c'est Eschyle est son aîné.
Il est aîné de 25 ans et lui a combattu, Eschyle a combattu à Salamine. On aime bien aussi adapter un peu l'histoire. Euripide serait né en 480.
Et oui, on a envie de les faire se rencontrer pour de vrai. Enfin, pour de vrai, non, mais enfin, on a envie effectivement de les faire se rencontrer. Alors, on vient de voir que Sophocle a commencé cette carrière théâtrale comme ça, en participant, en chantant et en dansant. Mais on va d'abord parler de sa carrière politique, parce que c'est évidemment la carrière théâtrale qui l'emporte. Et encore, si nous étions Athéniens au Ve siècle, je pense que nous serions complètement partagés et que
c'est ce que j'essaye de faire ressortir dans l'ouvrage.
C'est exactement ce qu'on voit, effectivement, des allers-retours. Vraiment, d'abord, ça se lit très très bien. On rentre dans l'histoire.
Vous savez que dans les monographies sur Sophocle, il n'est pas question de la vie de Sophocle. On parle de son théâtre parce que les modernes n'ont retenu que le théâtre. Mais j'ai voulu justement replacer Sophocle dans son temps. Oui. Et quand on replace Sophocle dans son temps, on a une vision assez différente du personnage.
Alors, il a exercé, je le disais en introduction, d'autres fonctions, mais il était assez âgé quand il commence vraiment à exercer de hautes fonctions et il était déjà reconnu comme auteur de pièces
tout
de théâtre depuis un bon moment.
Parce qu'il a, on peut préciser que sa carrière théâtrale commence en 468. Il avait moins de 30 ans et une carrière théâtrale brillante, on y reviendra tout à l'heure peut-être, première participation, première victoire.
Et puis, il
en aura d'autres. Mais
En politique, il
avait déjà atteint la cinquantaine quand il exerça sa première charge publique.
Oui. Quelle charge va-t-il exercer?
Alors, première charge exercée, c'est en 443-442. Vous me direz, je donne des dates précises cela. Et pourquoi donner des dates précises? Parce que nous avons des informations extrêmement précises, et ces informations extrêmement précises proviennent là et à d'autres, pour d'autres charges, d'inscriptions.
Oui. Alors, sur quelle source vous avez travaillé, Monsieur Jonas?
Alors,
des inscriptions.
D'abord, les sources littéraires.
Pour le côté politique, justement, pour le portrait.
Pour le côté politique, on a beaucoup d'inscriptions où il y a le nom de Sophocle, finalement, et des fragments qui ont été retrouvés lors des fouilles, particulièrement de l'Acropole. Mm-hmm. Des fouilles qui ont été faites au XIXe siècle, après la libération des Grecs par des Grecs, puis ensuite par des archéologues allemands. Et on a retrouvé très tôt, près des propylées, donc les portes monumentales de l'Acropole, on a retrouvé des fragments d'une liste des tribus. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut toujours se replonger dans l'histoire. Parce que si on ne se replonge pas dans l'histoire, on n'arrive pas à comprendre l'importance de la vie de Sophocle. Alors, après que les barbares aient été repoussés, les Grecs, pour empêcher une nouvelle invasion des barbares, après les guerres médiques, ont demandé à Athènes de prendre la tête d'une confédération d'alliés pour justement empêcher le retour des Perses. Et donc, ils avaient des alliés. Certains des alliés participaient en ayant une flotte. Mmh. Mais d'autres participaient en versant un impôt.
Tribut.
Ce qu'on appelle un tribut, T-R-I-B-U-T. Je suis obligé de dire ici, parce qu'on sera, on parlera de tribut après T-R-I-B-U. Un peu compliqué, mais c'est quand même clair. Et alors, ils avaient constitué une magistrature, une nouvelle magistrature annuelle de 10 grands trésoriers.
Voilà, ça va être sa première charge.
Voilà, le trésorier, ça s'appelait les Hélénotames.
Voilà.
Et pourquoi 10? Parce que ça correspond aux 10 tribus athéniennes, T-R-I-B-U-S, et qui ont été créées à partir de Clisthène. Voilà. Mmh. Alors, il fut, en 443-442, un des 10 Hélénotames, et il fut probablement le président du collège.
Oh, c'était déjà une très haute fonction quand même.
Très haute fonction, bien entendu, très haute fonction, parce qu'ils étaient chargés de gérer
ce trésor.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Et puis, il a été ensuite, il a occupé, alors là, pour moi, la suprême fonction. Il a fait partie des stratèges.
Voilà.
Alors, parlez-nous d'abord un petit peu, présentez-nous cette fonction qui signe la démocratie d'Athènes. Et puis,
il y avait 10 stratèges comme il y avait 10 les notables. C'est souvent le chiffre 10 qui correspond justement à ces 10 tribus.
Oui.
Sophocle, aussi bien quand il était les notables que stratège, représentait sa tribu. Sa tribu, alors, je regrette qu'on n'ait pas...
Pas parlé de son dème, j'imagine. J'en étais sûre.
Parce que si on ne parle
c'est
pas
de
son
c'est-à-dire de sa dème, patrie, quoi. Voilà, alors, parlez-nous du dème de Sophocle.
Oui, Sophocle est né à Colone. Et alors, j'insiste, Colone avec un N et pas deux, mais on trouve...
Du nom de...
La colline. Ça signifie la colline. C'était un dème qui était situé au nord-ouest d'Athènes, à quelques kilomètres des remparts.
C'est là qu'il est né.
C'est là qu'il est né.
Qu'il a grandi.
Et bien entendu, maintenant, ce dème de Colone se trouve dans la cité d'Athènes, et non plus hors les murs, comme c'était le cas. En tant que né à Colone, il faisait partie de la tribu d'une des 10 tribus, la tribu qui s'appelait Aigéis, du nom d'Égée, le roi d'Athènes. Donc, voilà, et c'est aussi très important de savoir qu'il, né à Colone, il appartenait à cette tribu Aigéis, parce qu'on a conservé le nom, alors il faudrait dire que les stratèges, maintenant, venons-en aux stratèges, vous savez que stratège signifie en grec qui conduit l'armée, donc ils avaient des pouvoirs militaires, mais ils avaient aussi des pouvoirs politiques, et ils étaient élus chaque année.
Chaque année, 10 stratèges.
Alors, chaque année, ils étaient élus, et 10 stratèges dans chacune des 10 tribus. Voilà, donc nous savons qu'il a été stratège en 441-440, donc très peu de temps après Hellénotam, vous voyez, 443-442.
Il a enchaîné donc ses fonctions politiques.
441-440, un peu, si vous voulez, oui, c'est ces deux fonctions-là, très certainement. Donc voilà, il a été stratège lors de la révolte de l'île de Samos.
Ah oui, alors ça a été, il a participé à cette répression aux côtés de Périclès.
Oui.
Quels étaient les rapports entre les deux hommes? Est-ce qu'on sait quelque chose? Parce que bon, Périclès est une figure, là, elle aussi, une figure écrasante, j'imagine,
au niveau du pouvoir.
Sophocle, l'homme de théâtre, est-ce qu'on... Et l'homme politique, et c'est pas pour autant qu'il devait être effacé ou à l'écart. Est-ce qu'on connaît quelque chose du rapport des deux, ou est-ce quelles interprétations les historiens
écoutez,
et vous-même en avez-vous tiré?
Écoutez, quand j'ai écrit mon Sophocle, je ne suis jamais parti de la bibliographie secondaire, c'est-à-dire des études modernes. Je me suis toujours reporté au témoignage primaire. Et je crois que c'est une des originalités de ce livre, parce que la bibliographie actuelle est immense, on n'arrive pas à la maîtriser. Mais quand on reprend tous ces témoignages dont on a parlé, littéraires, archéologiques, épigraphiques, iconographiques, quand on revient à la source elle-même, alors là, on trouve des choses tout à fait extraordinaires. Et si vous me le permettez, pour répondre à votre question, je vais lire quelque chose de tout à fait exceptionnel et que l'on ne trouve que dans le cas de Sophocle. On dit la vie des auteurs anciens, on a des témoignages, sujet à caution. Il faut avoir un esprit critique de ces témoignages. Mais pour Sophocle, on a quelque chose d'unique.
Ah, vous allez nous parler du fameux reportage, c'est ça ? Alors, allez-y.
Mais parce que nous sommes,
bien sûr,
nous parlons toujours du même sujet, de cette stratégie de 441-440, et vous me parlez des rapports avec Périclès.
Ouais.
Alors, il s'agit d'un reportage.
Oui.
D'un reportage fait sur Sophocle par un de ses contemporains, Ion de Chios. Ion de Chios, qui était aussi un auteur de théâtre. Mais il avait eu l'idée qui peut paraître extraordinaire à ce moment-là de faire un journal. Quand il y avait des...
C'est unique, cette sorte.
C'est unique. Quand il y avait des personnalités qui venaient dans son île... l'île de Chios, eh bien, il tenait un journal. Et nous avons la chance. Alors, dans un journal qui s'appelle Les Épidémies, mais vous direz, c'est l'épidémie, c'est quoi? C'est de l'Hippocrate? Non, c'est pas de l'Hippocrate, parce que l'épidémie en grec signifie les voyages. Alors, ça peut désigner les maladies qui viennent dans une cité, mais ça peut désigner aussi les personnalités importantes qui viennent dans une cité. Et alors, nous n'avons pas conservé l'original, ce journal original, dans son ensemble. Mais nous avons la citation tout à fait exacte par un auteur plus moderne, Athénée.
Donc on va l'appeler, entre guillemets, le reportage de Ion de Chios au moment où Sophocle vient dans son île.
C'est voilà. Alors pourquoi Sophocle vient dans son île? Parce que, en tant que stratège, on lui avait certainement confié la mission d'aller depuis Samos jusqu'à Lesbos pour chercher des renforts. Et comme l'île de Chios se trouve entre l'île de Samos et l'île de Lesbos,
il fait escale.
Il fait escale. Et voici donc ce reportage, signé Ion de Chios. J'ai rencontré le poète Sophocle à Chios lorsqu'il naviguait vers Lesbos comme stratège. C'est un homme qui a le vin gai et qui est astucieux. Hermésiléos, son hôte et le proxène des Athéniens, le recevaient à sa table. Près du feu se tenait le garçon chargé de verser le vin. Le garçon était visiblement rouge. Sophocle s'adresse à lui. « Veux-tu que je boive dans des conditions agréables ?» Le garçon acquiesça. « Fais donc des gestes lents en me tendant et en me retirant ma coupe. » Et comme le garçon rougissait encore bien plus, Sophocle s'adressa à son voisin, étendu sur le même lit que lui. « Qu'il est beau le vers composé par Phrynikos, un auteur de théâtre, lorsqu'il dit « Elle brille sur les joues pourpres la lumière de l'amour. » À quoi répondit son voisin, qui était un maître de grammaire originaire d'Érétrie, « Je ne doute pas que tu sois, Sophocle, un expert en poésie. Cependant, Phrynikos ne s'est pas bien exprimé en qualifiant de pourpre les joues du beau garçon, car si un peintre prenait de la couleur pourpre pour représenter les joues de ce garçon, il perdrait sa beauté. Il ne convient donc absolument pas de représenter le beau avec ce qui n'est manifestement pas beau. » Sophocle s'esclaffa à ces mots de l'homme d'Érythrée. Il ne te plaît pas non plus, alors, étranger, ce vers de Simonide, que les Grecs trouvent pourtant fort bien dit, de sa bouche pourpre la jeune fille faisant entendre sa voix. Ni non plus le poète, à savoir Homère, continua-t-il, qui parle d'Apollon à la chevelure d'or, car si un peintre peignait en or les cheveux du dieu et non en noir, le tableau serait médiocre. Ni non plus le poète, toujours Homère, qui dit l'aurore aux doigts de rose, car si on prenait de la couleur rose pour peindre les doigts, ce sont les mains d'un teinturier que l'on représenterait, et non celles d'une jolie femme. Cela déclencha les rires. Et alors que l'homme d'Érétrie était étourdi par cette volée de bois vert, Sophocle reprit sa conversation avec le garçon. Comme le garçon voulait retirer de la coupe un brin de paille avec son doigt, Sophocle lui demanda s'il voyait bien le brin de paille. Le garçon déclara qu'il le voyait bien. « Souffle donc dessus pour l'écarter afin de ne pas mouiller ton doigt. » Et comme le garçon approchait son visage de la coupe, Sophocle porta la coupe plus près de sa propre bouche afin que sa tête soit plus proche de celle du garçon. Et quand il fut tout près de lui, il le saisit avec son bras et lui fit un baiser. Toute l'assistance applaudit avec rires et cris pour saluer l'habileté avec laquelle Sophocle avait attiré le garçon par surprise. « Messieurs, déclara Sophocle, je m'entraîne à la stratégie depuis que Périclès a prétendu que si je connaissais la poésie, j'ignorais la stratégie. N'est-il pas vrai que mon stratagème m'a bien réussi ? Voilà donc un exemple parmi d'autres de l'astuce de Sophocle dans ses paroles et dans ses actes quand il participait à des banquets.
Séducteur et stratège en toutes circonstances, on peut dire.
C'est cela. Mais vous voyez aussi, c'est une intelligence éblouissante. Vous voyez cette culture, ces citations, cet humour.
Et puis cette façon aussi de transposer en acte vraiment ce qu'il souhaite quand même.
Parce que, ça.
Là, on voit ce qu'il veut. Hein.
Mais on revient à la question que vous m'avez posée, à savoir celle des rapports.
Des rapports entre les deux hommes.
Entre Sophocle et Périclès, vous voyez que les rapports n'étaient pas excellents.
J'allais dire entre le pouvoir et les arts aussi, ça m'a fait penser un peu à...
Alors,
je ne sais pas, on ne sait rien dessus peut-être.
Si, justement, alors... non. Je crois que là, si vous voulez, on voit l'intelligence de Sophocle et aussi son agacement devant les esprits trop sérieux.
Ah oui, le grammairien en prend un petit peu plein la figure, là, hein, pour pas
Périclès.
Grand-chose. Au passage.
Et Périclès est également au passage, donc... Ouais. Vous voyez, c'est quelque chose d'éblouissant.
Oui, son habileté faisait son succès, bien sûr. Ses œuvres étaient connues, mais effectivement, on voit comment son habileté pouvait aussi le faire reconnaître. Il était très apprécié, mais avait-il donc des ennemis ? Parce qu'il a eu tellement d'honneur au cours de sa vie et après, il était très aimé. Est-ce qu'il a bien dû agacer quelques personnes, dans le monde du théâtre peut-être.
Il passait pour avoir bon caractère.
C'était l'honnête homme dont j'ai parlé tout à l'heure, dans toute sa splendeur.
Oui, après sa mort, vous avez dit que
il y avait eu
des hommages, tout à fait éclatants. Et même, ce qui est exceptionnel, même de la part des auteurs comiques. Parce que vous savez que les auteurs comiques sont toujours en train de railler les auteurs tragiques. Mais après, juste après sa mort, en 405, deux auteurs comiques ont rendu hommage dans leur texte.
C'est
comédie.
Une sorte de monstre sacré, alors
Non, je n'irai pas jusqu'à l'idée de monstre sacré. Il n'apparaissait pas du tout comme un monstre pour les contemporains. Il apparaissait au contraire comme un homme respecté, absolument. Mais Aristophane, dans ses grenouilles de 405, dit qu'il avait bon caractère.
Ouais.
Et dans ses grenouilles, Aristophane propose un classement des tragiques, d'abord Eschyle, et puis ensuite Sophocle, et puis... Enfin, Euripide. Mais celui qui a rendu un hommage éclatant était un concurrent d'Aristophane. Bon, peu importe son nom, il s'appelle Phrynikos. C'était dans une comédie qui s'appelait Les Muses. Mais je voudrais citer les quatre vers pour répondre à votre question. Bienheureux Sophocle qui mourut après avoir vécu longtemps, homme heureux et habile, auteur de beaucoup de belles tragédies, il eut une fin heureuse sans avoir subi aucun mal. Et ça, ce sont les vers authentiques qui ont été prononcés dans le théâtre de Dionysos à Athènes en 405. Nous avons là deux témoignages exceptionnels.
Ouais. Point d'ennemis, on va dire.
Ben,
il était très apprécié. Alors, ce théâtre de Dionysos que vous venez d'évoquer, c'est un espace sacré au pied de l'Acropole d'Athènes. Oui. C'est là qu'étaient jouées à la fois les œuvres théâtrales, puis c'était aussi un lieu de fête, théâtre et...
Oui.
Et rites religieux se confondaient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet espace ?
Alors, je voudrais peut-être terminer pour la carrière politique de Sophocle, parce que nous en sommes restés
Il était stratège, Périclès, mais il y en a eu d'autres.
Oui,
donc, il a été stratège aussi.
Il a été stratège avec Nicias.
Oui.
Pendant la guerre du Péloponnèse.
Bien sûr.
Je rappelle 431-404 qui mettait aux prises non plus les Grecs contre les barbares, mais les Grecs entre eux. Donc Athènes et son empire maritime d'un côté contre Sparte et ses alliés du Péloponnèse. Donc pendant cette guerre-là, Sophocle a joué encore un rôle important. Il a été à nouveau stratège, mais surtout, il a été stratège avec Nicias. Il devait avoir dans les 70 ans. Mais pour donner une idée complète du prestige de Sophocle, vous savez qu'en 413, il y a eu le désastre de l'expédition de Sicile, qui était partie en 415 avec le rêve de conquérir un Eldorado occidental et qui, en 413, fut anéanti. Alors, dans cette période de crise, on nomma une commission de 10 toujours les 10 anciens qui étaient chargés de donner, de faire des propositions pour sortir la cité de la crise. Oui.
Et on a encore fait appel à lui. Oui. Vieux, très vieux.
Oui, 80, plus de 80 ans.
Longévité politique.
Oui, quelle longévité politique, oui. Et parce que Sophocle, en politique, je terminerai par là, pour la politique, a été un éminent représentant de la démocratie modérée entre les extrêmes, entre les promoteurs de l'oligarchie et la politique aventuriste des démagogues.
Il a assisté à ce glissement de la démocratie athénienne. Il n'était pas tellement pour ce camp des oligarques.
Des oligarques, ah ben oui, parce que quand il a été ce collège de conseillers, on parle de commissaire. En grec, c'est probouloi, et certains historiens parlent de probouloi. Alors là, il a dû voter pour, après un siècle de démocratie, il a dû voter l'oligarchie des 400, qui n'a pas duré longtemps. Mmh. Mais néanmoins, il a été obligé de voter cela. Et il y a un dialogue qu'Aristote a cité, un dialogue entre un des oligarques, Pisandre, et Sophocle. Je vous lis cela parce que c'est encore un témoignage pris sur le vif. Interrogé par Pisandre, donc l'un des principaux artisans de la révolution oligarchique, qui lui demandait s'il avait décidé, comme les autres commissaires, l'établissement des 400, il répondit par l'affirmative. « Eh bien, dit Pisandre, elle ne te paraissait pas mauvaise, cette mesure ?»« Si, déclara Sophocle. « Alors donc, tu as commis là une mauvaise action ?»« Oui, dit Sophocle, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution qui fût meilleure. » Bref, dialogue plein de vie, mais tendu, qui témoigne de la lucidité de Sophocle et de sa franchise. Voilà pour le Sophocle politique que nous pouvons abandonner maintenant.
Aborder le Sophocle homme de théâtre qui justement même dans ses pièces sur les on va dire les événements malheureux d'Athènes ou de sa cité, il a parfois justement donné une autre image du peuple d'Athènes ou ça a nourri son théâtre cette expérience politique et donc on va parler de ces pièces. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que seulement 7 de ces pièces nous étaient parvenues. On sait qu'il en a écrit 130, à peu près.
Oui, c'est vous 130. Qui révélez ça, c'est très bien.
Mais comment ça se fait qu'on en ait si peu ? Ou bien, est-ce que c'est une chance qu'on ait déjà ces 7-là ? Comment faut-il voir les choses ?
Écoutez, j'ai parlé d'un ouvrage tragique.
Oui. Hein? Oui, c'est le titre d'un de vos chapitres.
C'est le titre du prélude à la deuxième partie, justement. La première partie étant sur Sophocle l'Athénien, sur sa vie, et la seconde partie, Sophocle le tragique, qui est plutôt consacrée à son œuvre. Mais il n'y a pas une opposition entre les deux. J'ai parlé de la carrière théâtrale dès la première partie, et la vie est aussi... il faut en tenir compte pour l'interprétation de l'œuvre. Alors là, vous posez une question, pourquoi si peu ? Alors, je vais répondre d'un point de vue historique, car il faut toujours replacer les choses dans l'histoire. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le siècle après la mort de Sophocle, un homme d'État, Lycurgue, a décidé de conserver officiellement les œuvres des trois grands tragiques, Eschyle, Sophocle et Euripide. Alors, il faut s'imaginer cela, c'était sur des rouleaux. Mm-hmm. C'était des rouleaux.
Des papyrus, non ?
Oui, mais... c'était des rouleaux. Donc il y a eu une masse de rouleaux où l'œuvre était conservée officiellement. Oui. Probablement, ce premier choix a entraîné la disparition de tous les autres auteurs du 5e siècle, qui étaient très nombreux. Hein. On a parlé de Ion de Chios, on pourrait citer aussi Agathon, connu par Platon, mais il y avait une masse d'auteurs. Alors, ceux-là ont quand même à peu près complètement disparu. On en possède encore des fragments. Mais ce premier choix peut expliquer dans une certaine mesure que les autres n'ont pas été conservés, qu'on n'a pas conservé en tous les cas de tragédie entière. Alors, c'est un premier choix qui, vous voyez, quand on veut conserver quelque chose, le reste disparaît. C'est un peu ce qui s'est produit aussi dans un deuxième choix, qui a été deuxième siècle après Jésus-Christ, dans le monde romain, dans des milieux universitaires, on a choisi cette pièce. Et puis, c'est ainsi que les autres ont disparu, mais nous possédons quand même des fragments. Alors, ce que j'ai essayé de faire, et qui est, c'est de, dans l'annexe 2, de reconstituer ce que l'on peut savoir de 115 pièces de Sophocle, en plus des 7 que nous possédons.
Voilà. Là, c'est très utile et très précieux. Toutes les tragédies grecques ont un sujet mythique, et vous dites, Jacques Joanna, qu'il faut oublier la conception moderne que nous avons du mythe pour lire les tragiques grecs, de même qu'il faut oublier la médecine moderne pour bien comprendre celle d'Hippocrate. Que voulez-vous dire?
Ah, merci. Parce que je trouve que c'est extrêmement important. Mm. Ben, pour la médecine, vous savez, si on n'oublie pas les découvertes de la médecine moderne, on peut pas comprendre l'intérêt de d'Hippocrate. Et je crois qu'on ne peut pas condamner au nom des progrès qui sont survenus, progrès extraordinaires. On ne peut pas condamner la médecine hippocratique, qui est une médecine tout à fait admirable. Et je dois dire que nos médecins modernes auraient intérêt à relire Hippocrate, car Hippocrate s'intéressait personnellement aux malades. Maintenant, je crois que les médecins modernes n'ont plus le temps de s'intéresser aux malades. Voilà, en ce qui concerne Hippocrate. En ce qui concerne Sophocle...
Le mythe, cette conception...
Oui, alors... cette conception, c'est que...
Pour quel public, justement, cette conception moderne que nous avons du mythe, elle n'est pas toujours adaptée pour percevoir... complètement ou pleinement ces tragédies de Sophocle.
Et non,
parce qu'il faut que
le lecteur moderne se transforme en spectateur du 5e siècle.
Alors, transformons-nous.
Transformons-nous, eh bien, si nous reprenons l'éloge qui a été fait par cet auteur comique juste après la mort.
De Sophocle,
reprenons ces vers et écoutons-les comme si nous étions un spectateur du 5e siècle.
Bon. Allons-y.
Eh ben, alors, il a eu une belle vie et il a composé de belles tragédies. Enfin, belle vie, il savait très bien. Il savait très bien ce qu'il en était. Il savait qu'il avait eu une carrière théâtrale tout à fait exceptionnelle et qu'il a remporté un nombre de victoires que ses concurrents n'ont pas rapporté. 18 victoires dans les fêtes des Grandes Dionysies et 24 en tout. Comparons avec Eschyle, 13. Comparons avec Euripide, 4.
Rien à voir. Bah, il a raflé les Oscars de l'époque chaque année.
Et il nage. Alors, on reviendra un peu sur les concours, mais nous sommes en train de parler du mythe actuellement. Eh bien, ce qu'il savait aussi, et que malheureusement nous avons oublié, c'est qu'il avait écrit, comme vous l'avez rappelé dès le début, de 120 à 130 tragédies. Et puis, eux avaient, si vous voulez, une culture mythique que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Pourquoi ? Ben parce que, d'abord, il y a ce fameux naufrage tragique qui nous a fait perdre énormément de choses. Je voudrais vous lire, si j'ai le temps, un dernier témoignage tout à fait exceptionnel d'un auteur comique du IVe siècle qui s'appelle Antiphane et qui dit en substance qu'il est facile d'écrire une tragédie alors qu'il est difficile d'écrire une comédie. Vous allez voir. La tragédie est un genre merveilleux à tous égards, puisque dès l'abord, ses sujets sont connus des spectateurs, avant même qu'un personnage n'ouvre la bouche, si bien qu'il suffit au poète de les rappeler. Si je nomme Édipe, ils connaissent tout le reste de l'histoire, le père est Laios, la mère Jocaste, quels sont ses fils et ses filles, ce que lui va subir et ce qu'il a fait. Si de même on nomme Alcméon, par là même, on a nommé tous ses enfants, qu'il a tué sa mère, pris de folie, et qu'Adras, indigné, viendra sur le champ, puis repartira. Non, j'arrête là, la citation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour le mythe d'Édipe, on a la même culture que les spectateurs du Ve siècle. Pour le mythe d'Alcméon, c'est un trou noir. C'est un trou noir parce que nous avons perdu toutes les tragédies, en particulier celles de Sophocle, qui sont consacrées à ce mythe d'Alcméon, qui était un mythe parallèle à celui d'Oreste. Alcméon vengeait son père Amphiaraos en tuant sa mère Eriphyle. Les spectateurs du Ve siècle connaissaient ça parfaitement, puisque nous avons Antiphane qui nous le dit, alors que nous, vous voyez la différence considérable. Oui. Alors, il y a ça. Une première chose, c'est la perte. Deuxième chose aussi, c'est que pour eux, le mythe était en réalité de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne, ils ne mettaient pas en doute du tout l'existence de ces personnages mythiques. Mmh. Et puis, c'était l'histoire de grandes familles ancrées dans l'espace et puis ancrées aussi dans le temps. J'ai insisté sur le fait qu'il y avait la chronologie était par génération. Et que c'est pas du tout la mythologie n'est pas quelque chose qui est comme les idées de Platon qui serait dans l'éternité. C'était pour eux ancré dans le temps. Et voyez l'exemple.
Là, vous avez fait comme de l'historiographie de l'histoire du mythe à travers Sophocle. Vous avez tas de petits chapitres sur cette chronologie. Ici, c'est traité dans l'histoire de Troie avant, après. Alors, pour les passionnés, ça doit être délicieux.
Et en même temps, c'est une architecture mentale que nous n'avons plus et qu'ils avaient.
Voilà. Donc, c'était des clés qu'on n'a pas.
Les réalités géographiques aussi. Oui. Regardez Édipe à Colonne.
Colonne,
les Athéniens.
Bon, je le sais grâce à votre biographie, je vous le dis tout de suite.
Voilà. Et alors, cette matière mythique aussi, il faut le dire, c'était de l'histoire ancienne, mais en même temps, c'était une histoire malléable.
Et vous parlez d'imaginaire aussi.
Oui, alors.
Ah, quand même.
J'ai parlé d'imaginaire, c'est vrai. Je dois dire que c'est la seule concession faite à la modernité.
Mais il fallait bien. C'est Sophocle, mais moderne.
Mais bien sûr. Voilà. Mais à l'intérieur de ce chapitre sur l'imaginaire mythique, ce que je montre, c'est que c'est de l'imaginaire pour nous, mais pas pour les anciens.
Voilà. Parmi tous les héros des tragédies, quel est justement l'apport de Sophocle sur ces héros connus du public? Est-ce qu'il transforme quelque chose si on en prend un, si on prend Ajax? Qu'est-ce qu'il reconstitue? Est-ce qu'il innove? Quelle liberté a-t-il justement avec ces figures connues du public?
Oui, alors,
est-ce qu'il en prend?
On va pas pouvoir rendre,
On
va prendre un petit exemple parce qu'on arrive là dans des finesses sur la malléabilité du mythe. Mm. Parce que, on va prendre l'exemple d'Édipe. Pour vous montrer comment un même auteur tragique peut, suivant ses tragédies, prendre une tradition différente. Si on prend l'Antigone.
Oui.
Là encore, il faut essayer de replacer dans le temps. Et nous avons la chance de savoir que, au moins c'est l'érudition de l'époque hellénistique qui nous le dit, Sophocle a été choisi comme stratège avec Périclès, c'est à cause du succès de son Antigone.
Oui.
Alors, ça veut dire que Antigone a été écrit par par Sophocle dans les années 443-442, en tous les cas avant...
Avant qu'il exerce ce pouvoir voilà. suprême.
Voilà. Dans Antigone, Antigone dit, Édipe est mort à ce moment-là, et ses deux frères sont viennent de mourir dans la nuit précédant le drame, parce qu'ils se sont entretués, vous le savez. Antigone dit qu'elle a enterré son père et que son père était déshonoré. Ensuite, prenez Édipe à Colone, qui a été écrit par Sophocle dans sa dernière année. Parce que Édipe à Colone a été représenté après sa mort en 401. Mm. Bon. Eh bien, on a une conception de la mort d'Édipe totalement transformée, puisqu'il est héroïsé. Il va devenir protecteur de la cité d'Athènes. Voyez comme dans deux tragédies du même mythe, et par le même auteur, on peut avoir cette grande malléabilité.
Voilà. Pour finir, Jacques Joanna, quelle est votre pièce préférée de Sophocle ?
Je n'ai pas de pièce préférée. Je n'ai pas de pièce préférée de Sophocle. Toutes sont admirables. C'est donc la grande question qui est posée. Certains disent, oh, on a conservé cette tragédie parce que ce sont les meilleurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il avait un talent éblouissant et je crois que toutes ces tragédies étaient des chefs-d'œuvre.
Bon, voilà. Merci Jacques Joanna pour votre entretien et puis pour nous avoir présenté ce Sophocle à la fois homme politique comme de théâtre où le pouvoir et les arts se sont confondus et grâce à ces tragédies, eh bien nous avons peut-être de belles leçons à tirer et en tout
je
cas
pense. Je pense.
Un grand plaisir de voir encore ces pièces jouées aujourd'hui.
Et je dois dire que la grande leçon qu'on doit tirer du théâtre de Sophocle, elle se trouve dans son Antigone, où l'on voit que ceux qui veulent bien faire, s'ils vont trop loin, s'ils vont dans l'excès, eh bien, ils courent à la catastrophe et font courir à la catastrophe aussi bien le roi Créon qu'Antigone elle-même.
Merci Jacques Joanna.
Merci à vous.
Sur ce dernier point, sur la démesure.
Merci.
Merci.